Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture, avec aujourd'hui beaucoup de musique, mais dans des genres très différents, du jazz, on n'en parle pas assez, et également une série musicale. Vous retrouverez Hélène Manarino et son portrait inattendu, évidemment, aux alentours de 10h23. J'aime bien ces alentours-là. 23, pas 24, pas 22, 23. Mais également Eva Rock pour le zapping du lendemain, son zapping, et évidemment Chamerois, Bertrand Chamerois pour l'écran de veille. Notre info média, comment se désintoxiquer des écrans. Vous avez l'impression qu'on vous en parle toujours, oui, mais pas comme ça, c'est dans Envoyé spécial. Il y a même des repentis, comme dans la mafia, qui reconnaissent tout le mal qu'ils ont fait à la population. Par exemple, l'un des concepteurs de l'iPad chez Apple qui présente en quelque sorte ses excuses. Yves Bigot sera avec nous ensuite, le patron de TV5 Monde, qui lance TV5 Monde Plus, une plateforme de vidéos à la demande, gratuite, dans 194 pays, bien avant Salto, le fameux Netflix à la française, qu'on attend toujours. Enfin, Fatoumata Diawara, la chanteuse et comédienne qu'on a vue dans Timbuktu et qu'on a entendue avec Mathieu Chédid ou avec Damon Albarn dans Gorillaz. Elle sera la tête d'affiche du festival Jazz à la Villette, c'est maintenu, et elle sera notre tête d'affiche culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias pour démarrer l'émission. Charles, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
En avant-première, les coulisses d'une interview dont tout le monde parle depuis hier, la disparition d'un candidat de Koh-Lanta, la place des femmes dans les médias en temps de Covid et la fin d'une ère.
Mais on commence évidemment par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
C'est France 2 qui a pris la tête des audiences hier soir grâce à Alex Hugo. La série avec Samuel Le Bihan s'est largement imposée avec 5,8 millions de téléspectateurs, soit 26,5% de part d'audience.
5,8 millions, pardon, c'est presque le score du foot la veille sur TF1.
Absolument.
Énorme score pour une série.
TF1 se contente donc de la deuxième position avec The Resident. Les deux épisodes de la série américaine affichent une moyenne de 3,3 millions de personnes au compteur pour 15,6% de part d'audience. La série est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 31% de part d'audience. Et en troisième place, on retrouve M6 avec la suite du cycle Indiana Jones. La rediffusion d'Indiana Jones et la dernière croisade a fait trembler 2,9 millions de personnes, soit 14,6% du public.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec les coulisses d'une interview qui a fait parler. J'ai regardé les chaînes d'infos hier après-midi, c'était tous en boucle là-dessus, y compris hier soir.
Voilà, c'est en une de Paris Match depuis ce matin. Le magazine a retrouvé Nafissatou Diallo, la femme de chambre du Sofitel qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn de l'avoir violée. Voilà 8 ans qu'on ne l'avait plus vue. Sa dernière apparition publique remonte à la fin du procès, qui s'est terminé par un accord à l'amiable, et elle n'avait jamais parlé à la presse.
Alors comment le journaliste a-t-il réussi à la convaincre de parler?
Alors il s'appelle Olivier O'Mahony, il est correspondant de Match aux États-Unis. Il avait suivi l'affaire à l'époque. Il a croisé Nafissatou Diallo à plusieurs reprises. Ça a failli se faire et finalement, elle n'était pas prête à parler. C'est donc début 2020 et un peu par hasard d'ailleurs qu'il apprend qu'elle a écrit un livre qui est passé inaperçu et qu'elle est peut-être prête à répondre à ses questions. Louise Bernard s'est entretenue avec Olivier O'Mahony qui lui a révélé les coulisses de cette interview. Une interview qui n'a pas été facile à mener.
Ça a été compliqué de réaliser cette interview qui a duré près d'une heure et demie parce que, en fait, Nafissatou Diallo, 9 ans après les fêtes, reste extrêmement émotionnel. Donc, lui poser des questions précises sur des faits qui la ramènent à un cauchemar n'est pas chose aisée, évidemment. Les gens l'ont accusé d'avoir manipulé, en fait, Dominique Strauss-Kahn pour toucher de l'argent, ce qui est une accusation qui l'a fait pleurer littéralement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle veut parler, c'est qu'elle dit vouloir laver son honneur. Et c'est très important pour elle de le faire dans le contexte actuel avec le mouvement MeToo, où la parole des accusatrices est certainement plus respectée qu'elle ne l'était autrefois.
Alors on sait que Nafissatou Diallo avait signé un accord à l'amiable avec DSK. Est-ce qu'elle a signé également un contrat de confidentialité?
A priori non, et Olivier O'Mahony a évidemment posé la question à Nafissatou Diallo.
Elle me dit que l'accord au civil ne l'empêchait absolument pas d'écrire un livre. Et je veux dire que c'était une surprise parce que je pensais en effet qu'il y avait un accord de confidentialité, il n'en est rien. Quant au risque qu'elle prend, moi je ne sais pas, je pense qu'elle a vu ça avec son avocat, elle sait très bien ce qu'elle fait. Je ne pense pas qu'elle prenne de risques particuliers en parlant. On verra la réaction des avocats de Dominique Strauss-Kahn.
Dans l'interview, le journaliste pose toutes les questions sensibles. Il l'interroge sur ce qui s'est passé dans la chambre de 1806 de l'hôtel Sofitel, sur ce qu'elle a fait après ce qu'elle qualifie d'accident, parce qu'elle n'utilise jamais les mots viol ou agression, et sur ce qui s'est passé au niveau de la procédure judiciaire. Alors évidemment, certains estiment que tout cela est passé et s'interrogent sur l'intérêt d'interroger Nafissatou Diallo après tout ce temps, une question qu'on a posée à Olivier Omaoni.
L'objet de l'interview, je pense, ce n'est pas de réouvrir la controverse ni de refaire le procès dans la mesure où l'affaire a été classée. Donc on ne saura jamais ce qui s'est passé dans la suite 2806 du Sofitel. Par contre, je pense qu'il était important de connaître l'avis et le point de vue de Nafissatou Diallo, qui est quelqu'un qui, bien malgré elle, a peut-être changé le cours de l'histoire de France. Et donc on ne savait rien sur elle. Et justement, l'interview révèle plein de choses sur sa vie d'avant, sur la façon dont elle a vécu le scandale, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces doutes sur la véracité de ses propos et de ses accusations. Pour la première fois, on ne l'avait jamais entendu jusqu'à présent. Je pense que c'était très important de l'entendre.
Olivier Omaoni, correspondant de Match aux États-Unis, au micro de Louise Bernard. Et puis Charles, on apprend ce matin une bien triste nouvelle.
Oui, la disparition d'un candidat déjà emblématique de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Il s'appelle Bertrand Camel et ce sont ses proches qui ont annoncé sa disparition sur les réseaux sociaux avant que l'information ne soit confirmée il y a peu par TF1.
Bertrand Camel, c'est un candidat de la saison actuellement diffusée, c'est ça?
Oui, les téléspectateurs ont fait connaissance avec lui il y a 15 jours lors du lancement de Koh-Lanta, les 4 terres. Il avait 31 ans, il appartenait à la tribu de l'Est et il s'était illustré par sa bonne humeur et sa volonté de faire. Cette nouvelle saison de Koh-Lanta a été tournée fin 2019 et c'est après son retour en France qu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer. Cet été, il avait parlé de son combat dans un billet publié sur son compte Facebook. Il promettait qu'il ne lâcherait rien et qu'il se battrait jusqu'au bout. TF1 a réagi dans un communiqué sur Twitter où elle rappelle les qualités de candidat mais aussi d'homme de Bertrand Camel. La chaîne indique qu'en accord avec sa famille, TF1 et la société de production ALP lui dédient cette saison. De son côté, Denis Brognard a publié un long message également sur Twitter. « Je suis dévasté par le décès de Bertrand Camel hier soir. Je l'ai connu comme aventurier de Koh-Lanta et je l'ai aimé comme un ami ensuite, un être cher avec qui j'ai partagé tant d'instants privilégiés. Il m'avait ému au Fidji, il m'a bouleversé après. Il m'a impressionné par son courage, son mental, sa tendresse et son altruisme. » Denis Brognard poursuit sur Twitter. « Un grand monsieur, un mec en or, un aventurier formidable. Sa vie a été courte, mais si riche et intense, faite d'amour, de joie, de générosité, honorons la mémoire de cet homme si bon. »
C'est Denis Brognard qui écrit ça et Denis Brognard sera notre invité demain dans Culture Média. Tout à fait autre chose, question, quelle place pour les femmes en cette période de pandémie?
C'est la question que s'est posée la députée LREM Céline Calvez dans le cadre d'une mission parlementaire. Vous l'aviez reçue en juin dernier, ouais, alors qu'elle était à mi-chemin dans son travail.
Oui, on s'en souvient, la mission avait été lancée le lendemain de la une du Parisien sur le monde d'après. Ils interrogeaient des spécialistes sur le monde d'après. 4 spécialistes, 4 hommes.
Voilà, et l'objectif était de passer du registre du ressenti, puisqu'il y avait eu beaucoup de gens qui avaient été choqués par cette une, passer donc du registre du ressenti à celui des faits. Et je ne vais pas trop vous surprendre en vous annonçant que les résultats de la mission ne sont pas bons. La crise sanitaire a aggravé le manque de visibilité des femmes dans les médias, comme l'a expliqué Céline Calvez à Louise Bernard.
On a vu dans cette crise, qui était inédite, notamment par sa dimension sanitaire et scientifique, que les femmes étaient encore plus absentes. On a remonté certains chiffres, on les retrouve dans l'étude, où il y a eu un décrochage les premières semaines. On avait besoin de toute une bande d'experts et d'expertes différents qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir contacté avant. Et là, on a vu les réflexes qui font que c'était plutôt ceux qui avaient le pouvoir dans les sphères scientifiques qui étaient appelés. Or, dans les sciences, on n'est pas encore arrivé à reconnaître toutes les compétences et toute la place qui doit être dévolue aux femmes. Et là, ça s'est vu. Et donc, si il y a eu un rattrapage après, les premières semaines ont été vraiment, vraiment le cadre d'un relâchement des experts. C'est notamment le cas dans l'émission C'est dans l'air. C'est dans l'air, depuis ces premières années, il y avait beaucoup une présence masculine. Ils étaient parvenus, sous l'impulsion de la présidente de France Télévisions ou de Caroline Roux aussi, à arriver à 50% d'experts au mois de janvier. Et après, ça a dégringolé. Donc là, même quand on en fait attention, la vigilance n'est pas encore à la hauteur.
Constat terrible, comment fait-on pour changer ça?
Le rapport se termine par 26 préconisations pour faire avancer les choses. Des préconisations qui invitent dans un premier temps à mieux mesurer la place des femmes dans les médias pour mieux pouvoir la faire évoluer. L'idée d'un bonus-malus pour récompenser les médias les plus proactifs et pénaliser ceux qui ne respectent pas les obligations légales est également évoquée. Mais la députée est lucide, il y a encore du travail.
Déjà, pour changer, il faut savoir d'où on part. Et donc, si nous n'avons pas encore assez développé, notamment dans la presse écrite, les réflexes et les indicateurs pour compter et bien révéler quelle est la place des femmes, il faut y passer. Les médias audiovisuels sont habitués. Les médias de presse écrite, non. À partir du moment où on a ces constats et ces vigilances, eh bien, il va falloir aussi inciter à progresser. Et progresser, ça passe aussi bien par des formations, ça passe aussi par le fait de se fixer des objectifs communs. En fait, c'est une responsabilité partagée, c'est du quotidien. On ne peut pas se contenter de faire comme ça une étude tous les ans en se disant « Ah, bah c'est bien ». Non, il faut que ça soit vraiment à l'esprit de chaque personne, les médias, les experts, les institutions.
La députée Céline Calvez au micro de Louise Bernard. Et on termine ce journal Charles, comme hier d'ailleurs, par la fin d'une ère.
Oui, hier je vous annonçais la fin de l'incroyable famille Kardashian. Aujourd'hui c'est celle de The Walking Dead. A priori pas trop de rapport entre Kim Kardashian et les zombies. La chaîne câblée américaine AMC a annoncé que sa série phare, qui avait été lancée en 2010, prendrait fin à l'issue de la 11e saison. Pourquoi c'est un événement? Parce que The Walking Dead a battu des records d'audience sur cette toute petite chaîne câblée. Elle est passée devant les mastodontes des grandes chaînes américaines. Elle a explosé les scores, mais vraiment, sur les 18-49 ans, qui sont l'équivalent américain des fameuses ménagères dont on parle. Voilà, la cible fétiche des annonceurs américains. Alors depuis, les audiences se sont sensiblement érodées, mais la série reste un monument de la télé américaine. Un monument qui aura droit à une belle fin, en bonne et due forme, planifié longtemps à l'avance.
Alors, ça sera pour quand cette fin ?
Alors Philippe, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de vous faire à l'idée. Cette 11e saison qui était attendue à l'origine en 2020, elle a été décalée à 2021 en raison du Covid-19. Elle comptera pas moins de 24 épisodes qui seront diffusés en 2021 et en 2022. 24 épisodes qui s'ajoutent aux 6 épisodes restants de la saison 10. Donc
c'est
en tout, je fais
les
comptes, il reste encore 30 épisodes de la série de Mort-Vivant à diffuser sur les 2 années à venir.
Et après, fini les zombies?
Bah même pas, parce que The Walking Dead a déjà un spin-off qui s'appelle Fear the Walking Dead, dont la 6e saison est attendue le mois prochain, et que la chaîne AMC prépare déjà une 2e série dérivée centrée sur deux des personnages principaux de The Walking Dead. Les zombies n'ont donc pas dit leur dernier mot, loin de là.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal des médias. Notre info média du jour à suivre, c'est la nouvelle enquête d'Envoyé spécial sur l'addiction au smartphone. Sommes-nous tous accros ? Réponse dans quelques instants avec deux journalistes qui ont travaillé sur le sujet. Vous allez voir, c'est complètement neuf. Virginie Villard et Yvan Martinet, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Question, êtes-vous accro à votre smartphone et pourriez-vous vous en passer pendant plusieurs jours? Si vous avez encore un doute sur la réponse, vous y verrez plus clair ce soir en regardant Envoyé spécial, c'est à 20h10 sur France 2. Le magazine consacre une soirée spéciale à notre dépendance numérique. 3 sujets au programme, une expérience de sevrage de smartphone à laquelle se sont livrés pendant 2 semaines un ado de 14 et sa maman de 42 ans, classique mais résultat surprenant, et aussi une enquête sur les drogués du numérique aux États-Unis, co-réalisée par Virginie Villard. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez le casque sur les oreilles, vous avez le masque. Pour quelle raison vous avez le masque dans ce studio alors que nous sommes à distance?
Parce que je préfère être prudente, parce que certainement quelqu'un que j'ai pu croiser a été testé positif.
Face à vous, un troisième personnage, non, pardon, il y aura un troisième reportage consacré au repenti des applis. Il est face à vous, il est co-réalisé ce reportage par Yvan Martinet. Bonjour.
Bonjour. Je vais bien.
Voilà, vous allez bien, vous n'avez pas de masque et moi non plus. Première question à tous les deux, est-ce que vous-même êtes atteint de nomophobie? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la nomophobie?
Bien sûr, évidemment.
Dites-le, Yvan.
Nomophobie,
ouais. Avoir peur de ne pas être joignable. Il y a des gens qui paniquent quand ils sont dans une maison.
Ouais,
ils n'ont pas la 2G, la 3G, la 4G, ils sont en panique. Est-ce que ça vous arrive ou pas?
Ça peut m'arriver, ouais. Si je suis honnête, je ne suis pas très bien quand je n'ai pas mon téléphone, quoi.
Et vous?
Je crois qu'il y a une petite déformation professionnelle derrière, chacun son boulot, mais nous, en tout cas moi, mon boulot, ça a souvent été d'être joignable H24 quasi, et alors du coup, il en reste toujours des séquelles.
Les Français passent en moyenne 2 heures par jour sur leur smartphone, chiffre qui augmente un peu plus chaque année. Vous, c'est combien, vous le savez?
Je sais pas bien, c'est mais de l'ordre de... Alors, il y a... Covid ou hors Covid ?
Vas-y, hors Covid, non, là on en est sorti.
On doit titiller 4 heures.
Et vous, moi, Virginie ? J'ai découvert à l'occasion de cette émission en travaillant dessus, en regardant dans tant d'écrans dans mon iPhone que je passais plus de 4 heures par jour sur mon téléphone.
À ceci près que si on écoute Europe 1, typiquement, on ne sait pas si c'est vraiment du temps d'écran, mais par exemple, moi le matin, j'écoute Europe 1 via l'iPhone, c'est du temps. C'est considéré comme du temps d'écran. Donc les données sont peut-être un peu biaisées.
Oui, parce qu'on peut écouter Europe 1 sans regarder l'écran.
Exact.
Virginie Villard, pour votre enquête, vous êtes allée à Austin, au Texas. Là-bas, il y a une clinique spécialisée dans l'addiction qui accueille depuis 2 ans des drogués du numérique. En quoi consiste la cure de désintox ? Est-ce qu'on peut l'appeler ainsi ?
Oui, c'est complètement une cure de désintoxication. En fait, cette cure, elle dure 2 mois. Mmh. Et les patients, déjà, commencent par... ils sont totalement privés de tout écran. Ils n'ont plus de téléphone portable, plus accès à aucun ordinateur. Et donc, il y a une période de sevrage, déjà, qui est très difficile. On l'a vu avec les personnages qu'on a suivis. Et ensuite, ils sont accompagnés, souvent, dans ce sevrage, par des psychologues qui vont les aider. Et ils ont des ateliers qui peuvent paraître anodins, comme ça. Mais en fait, ils vont aller se balader pendant 3 heures dans la nature, apprendre à lever la tête, à regarder, à sentir. Ils font du tai chi, ils vont faire de la respiration. En fait, sur le coup, moi, je me disais, bon, c'est vraiment, c'est pas grand-chose, quoi.
Ouais,
et en fait, c'est la vie. Mais en fait, ce sont souvent des gens qui ont été privés de cette vie.
Quel est leur profil à ces gens qui suivent cette cure de désintoxication ? Ils y vont d'eux-mêmes ou est-ce que c'est leur entourage qui les y envoie ?
Alors là, nous, dans le reportage, on suit un jeune garçon qui est très mal quand on le voit, parce qu'il est au tout début de sa cure. Il s'appelle Denton, il a 23 ans. Et là, c'est vraiment ses parents qui l'ont poussé à y aller, parce que c'est un garçon qui était totalement coupé de la vie sociale. Il n'avait pas d'amis, il ne parlait plus à ses parents, il ne travaillait plus, il avait arrêté ses études, il était vraiment mal.
Un no life, comme on les appelle. Combien ça coûte ?
Alors, 18 000 euros.
Waouh !
Voilà, cette cure de 2 mois.
Pardon de dire ça, on a l'impression que ça existe aussi parce qu'il y a des gogos qui sont prêts à mettre 18 000 euros.
Alors,
si vous me filez 18 000 euros, j'ouvre une clinique. Hein.
Non, mais c'est sûr que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, bon, voilà, c'est souvent des parents riches qui peuvent payer ça à leurs enfants.
Ça fonctionne ?
Alors, c'est difficile de savoir pour l'instant parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Mais nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est que Denton, ce garçon qu'on a suivi, quand il est sorti, bon, il a réussi à trouver un travail. C'est pour la première fois de sa vie, il travaille. Il a réussi à communiquer à nouveau avec ses parents. Et il ne touche plus de téléphone, de smartphone. Il a le droit d'avoir un téléphone, mais sans Internet.
Ouais. Le seul regret que j'ai, c'est que Denton ne pourra pas écouter la suite de Culture Média. Vous restez avec nous, on continue à parler de l'addiction au smartphone avec Yvan Martinet et Virginie Villard. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Virginie Villard et Yvan Martinet, vos enquêtes et pas seulement sont à découvrir ce soir dans Envoyé spécial. Le thème central global, c'est l'addiction au smartphone et aux tablettes et au numérique. Virginie, vous enquêtez également à Tulsa, c'est en Oklahoma. Vous avez obtenu l'autorisation de filmer dans un grand centre de recherche sur le cerveau. Il mène en ce moment une vaste étude à l'échelle des États-Unis sur 11 000 enfants. L'étude va durer 10 ans entre leurs 9 et leurs 19 ans. C'est quoi cette étude précisément ?
Alors déjà, c'est une étude d'une ampleur inédite. Effectivement, ils vont suivre pendant 10 ans des enfants et en fait, les chercheurs veulent vraiment voir l'impact de l'utilisation du smartphone sur leur cerveau. Donc en fait, régulièrement, les enfants viennent passer des IRM du cerveau dans ces centres. On a eu la chance de tourner dans l'un d'entre eux. Ils font aussi des tests cognitifs, langage, mémoire. Et en fait, l'idée, c'est de voir comme ça sur le long terme, est-ce que finalement, ils sont partis d'une question, est-ce que l'utilisation du smartphone peut avoir un impact négatif sur le cerveau ? Est-ce que ça peut le faire rétrécir ? Et ce qui est assez surprenant, c'est que là, les chercheurs sont prudents parce qu'ils sont au tout début de l'étude, mais ils ont déjà fait une découverte qui est inquiétante.
Cette découverte, elle est dans votre sujet évidemment. L'étude est menée depuis 2007. En 3 ans, elle fournit
2016.
Déjà. 2016. Et en 3 ans, elle fournit les premiers résultats. Résultats alarmants.
Chez les enfants qui utilisent beaucoup les écrans, une zone du cerveau se modifie. C'est le cortex, la partie qui régit le langage, la mémoire ou encore la conscience.
Quand vous êtes jeune, votre cortex est épais comme ça. Quand vous vieillissez, votre cortex est comme ça. Plus vous vieillissez, plus votre cortex diminue. C'est tout à fait normal, c'est un processus naturel. Mais là, on a découvert dans cette étude que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction du cortex. Et en particulier l'utilisation des réseaux sociaux.
Est-ce qu'on peut déjà mesurer les effets des écrans sur cette génération qui sont quasiment nés avec un écran entre les mains ?
Alors, encore une fois, bon, les chercheurs veulent rester prudents. Ils nous ont bien dit, bon, voilà, là, ce qu'on constate aujourd'hui, on ne sait pas totalement l'interpréter. Mais ce qu'ils constatent, effectivement, c'est que les enfants qui utilisent beaucoup des écrans ont un rétrécissement accéléré du cortex. Après, ils ne savent pas encore ce que ça veut dire.
Parce qu'on parle parfois d'une baisse de QI générale.
Oui, alors, si vous voulez, eux, ils ne sont pas forcément là-dedans. Ils mettent des données les unes à côté des autres. Ils se rendent compte que le cortex diminue et ils se rendent compte aussi que ces mêmes enfants ont des tests moins bons aux tests de langage, de mémoire, et que ce sont souvent des enfants plus agressifs que ceux qui n'utilisent pas de portable.
Conséquence de tout cela, je me tourne vers vous, Yvan Martinet, encore plus surprenant ce reportage. Vous êtes allé à la rencontre de ceux que vous appelez les repentis des applis. Il y a Tony Fadell, ingénieur concepteur chez Apple, à qui l'on doit 18 générations d'iPod et 3 modèles d'iPhone. Que vous a-t-il dit ? Qu'il regrette d'avoir eu ces idées ?
Alors plus que l'iPod, il a surtout l'iPod, c'est ce qui a servi à inventer derrière l'iPhone. Donc il a surtout inventé l'iPhone depuis le premier. On peut se dire que c'était loin, mais finalement ça n'a pas tant évolué que ça. Et puis c'est surtout dès le premier que ça a changé nos habitudes avec les applis. C'est un peu l'inventeur du verre. Il a inventé un verre, soit. Maintenant, le verre, vous en faites ce que vous voulez. Si vous mettez de l'alcool dedans, il n'est pas responsable. Il en est un peu là. Il a inventé un outil et ce qu'il constate, c'est que ce que l'on fait de l'outil le dérange. Donc, il n'est pas en train de renier son bébé par ce point.
Mais quand même, il dit, dans le sujet, pour lui, il dit qu'il faut combattre le monstre.
Oui, parce qu'il se rend compte que, lui le premier, il le dit dans le sujet aussi, quand il est au restaurant, comme nous tous, il voit autour de lui ses familles qui, au lieu de se parler, au lieu de se regarder, sont toutes sur leur portable et évidemment, ça le navre. C'est même l'occasion de scène de ménage chez lui, puisque sa femme l'engueule parce que les enfants sont trop scotchés au portable. Et il a inventé un truc et aujourd'hui, et c'est ce qu'on retrouve dans chacun des personnages de ce reportage, les repentis, il éprouve une certaine forme de culpabilité.
Autre personnage que vous avez rencontré, Guillaume Chalot, il est ingénieur, il a travaillé pour YouTube. Sa mission était de rendre la plateforme la plus addictive possible. On ne peut pas dire qu'il ait échoué. Il a témoigné facilement ?
Oui, parce que il est lanceur d'alerte maintenant. Ouais. Il a été lui-même, après avoir travaillé chez YouTube, programmateur, après avoir... Il n'a pas inventé l'algorithme, mais il l'a perfectionné. Il l'a rendu encore plus...
Encore plus efficace.
Exactement. Et... un jour, il s'est réveillé, il avait évidemment un très bon salaire, il roulait en Porsche, il vivait en Californie, il allait surfer, etc. Mais un jour, il s'est réveillé avec, allongé à côté de lui, la culpabilité. Il a dit stop. Et de ce jour, il a décidé de se lancer dans une croisade.
On va raconter ce qu'il fait maintenant. D'abord, je voudrais qu'on entende un exemple que vous donnez. C'est l'exemple de l'élection présidentielle de 2017. Il a stocké les vidéos les plus recommandées sur YouTube pendant la campagne électorale et le résultat est surprenant.
La deuxième vidéo la plus recommandée, le 30 avril 2017, c'était une vidéo de Dieudonné sur Macron ou Le Pen. Cette vidéo, elle a été recommandée par YouTube des millions de fois, probablement de l'ordre de 10 millions de fois. C'était la vidéo qu'il fallait promouvoir pour que YouTube ait plus de publicité.
Vous avez travaillé sur cet algorithme, vous avez participé à ce que, dans un temps fort démocratique en France, on ait ce genre de proposition.
Voilà, donc j'ai contribué à ce que l'algorithme propose des résultats toxiques juste pour que Google maximise ses revenus publicitaires.
Ça vous fait quoi de vous dire ça ?
Je me sens responsable et coupable et maintenant ma responsabilité, c'est de parler de ça pour qu'on change les choses.
Responsable et coupable, c'est quoi sa vie aujourd'hui à ce repenti de YouTube ?
Aujourd'hui, il vit d'une bourse de Mozilla. Il a finalement capté beaucoup l'attention après avoir quitté YouTube. Déjà, un, c'était courageux. Deux, il s'est vraiment lancé, c'est-à-dire en renonçant à ce salaire, etc. Donc, il est sur ses frais, il s'est lancé dans cette croisade. Et aujourd'hui, il est très identifié comme monsieur éthique. Au point, et c'est presque un paradoxe, que c'est un peu une sorte de greenwashing, au point que les Facebook, les Apple, etc., maintenant viennent sonner à sa porte et essayent de le débaucher pour l'avoir dans leurs effectifs comme garde-fou, comme monsieur éthique.
Pour l'avoir, pour le faire travailler ou pour l'avoir en disant au monde entier « Regardez, il est avec nous ».
Ah ça, moi, je suis ni chez Facebook ni chez Apple, mais en tout cas, il y a une prise de conscience.
Tout à l'heure, quand je vous demandais combien de temps vous passiez par jour sur votre smartphone, je vais arriver à le dire, vous m'avez fait cette question avant ou après le Covid. Qu'est-ce que le Covid a changé et qu'est-ce que le Covid a changé pour eux, pour ces gens ?
C'est marrant. Je leur ai envoyé un mail, comme on le fait parfois, pour leur dire « Bon, le sujet passe, ce sujet il a été tourné avant le Covid ». On pouvait s'interroger sur notre rapport les uns les autres au portable. Quand je leur ai dit, bah, leur portage passe, ils me disent, trois d'entre eux me disent, c'est marrant, j'aurais peut-être pas fait les mêmes réponses si on avait été après le Covid.
Ah bon, pourquoi ?
Bah parce que on a.
Qu'aurait-il dit de différent ?
Il y avait un petit côté extrêmement superflu à passer autant de temps sur Instagram, par exemple, sur des applications futiles avant le Covid. Pendant le Covid, à travers les enfants qui étaient scolarisés via leur tablette, à travers les personnes âgées dans les EHPAD qui étaient peut-être un petit peu désenclavées, extraits de leur solitude grâce aux tablettes, on a peut-être mesuré aussi qu'il y a un caractère absolument nécessaire, indispensable à vivre avec. Et eux me disaient qu'ils avaient peut-être la dent moins dure contre la tablette après avoir vécu ce Covid.
Pour être totalement complet, il y a un troisième reportage à voir ce soir d'Envoyé spécial, Ma vie sans portable, expérience de sevrage de téléphone pendant deux semaines à laquelle sont prêtés Rodolphe, il a 14 ans, et Séverine, 42 ans. C'est pas vous qui avez réalisé ce sujet qui a été fait par Romain Boutilly, Élodie Delevoye, Adrien Bellet, vous l'avez vu le sujet ?
Oui, bien sûr.
Et alors, ça vous a donné envie de vous sevrer ?
Un petit peu, ouais. Ouais, je me suis dit que effectivement, personne n'était épargné en fait.
Ouais.
On était tous un peu accros à notre téléphone, absorbés par ces notifications, et que en tout cas, ça méritait d'y réfléchir.
On va entendre un son. C'est Rodolphe qui a 14 ans. Il est bon élève. Il est en troisième. Il passe 6h30 par jour en moyenne devant des écrans. Et mis à part son téléphone, il ne sait pas comment occuper son temps.
Hormis les vidéos et Instagram, Snapchat, etc. Moi, je vois pas d'autre occupation en fait.
Est-ce que tu lis parfois ?
Non, c'est clairement que si j'ai l'école qui demande, mais non. L'idée n'arrive même pas dans ma tête de lire un livre.
Rodolphe s'endort en général devant ses écrans autour de 23h.
Réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
C'est effectivement, on peut tous le constater, du temps de lecture en moins par exemple, mais on peut aussi regarder sur une tablette, je sais pas, au hasard, France 2, écouter aussi Europe 1, et ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de ce qu'on en fait, cet outil.
Ou parfois écouter des livres audio. Réaction ?
Moi, c'est difficile de savoir ce que je constate. En tout cas, j'ai rencontré des parents aux États-Unis pour préparer ce reportage, et j'ai vu beaucoup de parents désespérés en fait, qui disaient que leurs enfants étaient en souffrance, qui étaient vraiment absorbés par ça et que ça ne leur faisait pas du bien en fait.
Donc, c'est incroyable parce qu'on dirait, je terminerai sur ce mot-là, on dirait qu'on parle de drogue. On peut faire cette analogie ou pas ?
Ah, en tout cas, les spécialistes aux États-Unis qu'on a rencontrés le font totalement, ce parallèle. Ouais.
Merci beaucoup, Yvan Martinet. Merci, Virginie Villard,
merci
d'avoir été avec nous en direct, et vos sujets et d'autres sont à voir ce soir d'Envoyé spécial. Dans un instant, c'est Yves Bigot, le patron de la chaîne TV5 Monde, qui sera avec nous pour le lancement de sa plateforme francophone mondiale. Ça s'appelle TV5 Monde Plus. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Yves Bigot.
Bonjour Philippe.
Yves Bigot retire son masque. Vous êtes le directeur général de la chaîne TV5 Monde, je le dis, troisième réseau mondial de télévision après CNN et MTV. Ça surprend parce que vous êtes surtout diffusé à l'étranger. Et vous venez de lancer hier TV5 Monde Plus, une plateforme de vidéo à la demande gratuite, donc dans 194 pays à travers le monde. D'abord, pour ceux qui n'ont pas le câble ou le satellite, c'est quoi TV5 Monde ?
TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie, donc qui est financée par la France, le Canada, le Québec, la Suisse et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes présents aujourd'hui de manière effective dans 353 millions de foyers sur l'ensemble de la planète, y compris en Chine, en Corée du Nord, on est absolument partout. Et nous sommes regardés par plus de 60 millions de téléspectateurs chaque semaine.
Voilà, et deux chiffres, le français est la cinquième langue la plus parlée dans le monde et la troisième langue parlée sur Internet. Alors, vous avez lancé un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, TV5 Monde Plus, que le Figaro présente comme le, avec des guillemets, donc ça vient de vous, le Netflix de la francophonie. Quelle différence avec Salto, qu'on attend toujours, annoncé comme le Netflix à la française ?
Alors, vous l'avez dit, Philippe, TV5 Monde Plus, c'est un service qui est planétaire, gratuit, francophone. Salto, à ma connaissance, sera une plateforme nationale, donc française, alors que nous sommes, vous l'avez dit, dans 194 des 197 pays reconnus par l'ONU aujourd'hui.
C'est assez rare pour être signalé, c'est pour ça que j'en parle. La création de cette plateforme a été poussée en très haut lieu.
Oui, bien sûr, elle a été annoncée le 12 octobre 2018, donc il y a presque deux ans, par Emmanuel Macron et Justin Trudeau, le Premier ministre canadien.
Alors, c'est une plateforme de AVOD,
Pardon, la technique, quelle différence avec la SVOD qu'on connaît ?
Ah ben, A, c'est pour advertising. Ça veut dire que la plateforme est gratuite, mais qu'elle peut accueillir de la publicité et qu'elle incite à l'authentification.
Voilà. Alors sinon, SVOD, il faut payer. Ensuite, il n'y a pas
c'est
de pub.
Ça.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve ? C'est quoi les grandes catégories ? Qu'est-ce qu'on va trouver ?
Alors, on va trouver, comme sur les plateformes américaines, dont nous n'avons pas la prétention ni le budget de leur faire concurrence, mais de présenter une alternative en français. Donc, on y trouve, bien entendu, du cinéma, des séries, des documentaires et même du spectacle vivant, des concerts, etc., comme c'est le cas sur les grandes plateformes américaines. Mais comme nous sommes un service public, nous avons par ailleurs rajouté beaucoup de magazines, alors des magazines d'information.
Je vais parler des magazines, j'ai juste un mot pour dire du cinéma. Il y a des gros poids lourds quand même. Il y a des films de Desplechin, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle, ou encore La Sentinelle de Xavier Beauvois, Le Petit Soldat avec... La Sentinelle, c'est Desplechin, et de Beauvois, il y a Le Petit Soldat avec Isabelle Huppert. Question, est-ce que c'est difficile d'obtenir les droits, ou est-ce qu'il suffit que ces films soient passés sur une chaîne française et publique pour avoir les droits ?
Non, alors malheureusement, ça serait génial si c'était le cas. Non, pas du tout. Nous devons acquérir les droits de tous les films sur le marché, que ce soit des films français, comme vous en avez cité Philippe, des films canadiens, belges et suisses.
Vous avez les droits de diffusion de votre chaîne dans 194 pays, ça m'a fait sourire, sauf la Chine, les États-Unis et les Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas ?
Alors les Pays-Bas et les États-Unis, ça sera le cas en 2021, c'est juste en retard au démarrage, le temps qu'on termine des contrats d'exclusivité sur des marchés payants, donc dans ces deux pays. Concernant la Chine, la chaîne TV5 Monde Asie est diffusée en Chine et sous-titrée en mandarin. Mais vous connaissez la susceptibilité des Chinois pour ouvrir leur espace numérique. Donc nous avons rendez-vous tous les ans avec l'équivalent du CSA chinois pour renouveler la licence de diffusion de la chaîne traditionnelle TV5 Monde Asie. Et là, on leur demandera s'ils peuvent envisager de laisser pénétrer le marché chinois par TV5 Monde Plus.
Alors, je vous ai interrompu quand vous parliez des magazines parce que je voulais en parler, évidemment. J'ai regardé ce matin. Déjà, je dois dire quelque chose. C'est assez rare pour signaler. On clique et ça marche. Plein de fois, on arrive sur des plateformes, on clique, ça marche pas, ou alors on clique et on se paye 4 pubs. Là, j'ai cliqué, ça a marché, j'ai vu plein de choses. J'ai pas pu regarder avant parce que vous avez démarré hier. Il y a des magazines, par exemple un magazine de cuisine québécois qui s'appelle Sel et Diesel, vous le connaissez ou pas ?
Oui, bien sûr.
Pourquoi ce titre ?
Alors ça, je l'ai oublié.
Parce qu'il s'intéresse aux food trucks, camions qui font de la vente ambulante de nourriture, et ça démarre comme ça.
On est à Portland, en Oregon, la ville où tout a commencé.
T'as rencontré ta femme ici? Je savais pas ça.
Je te parle du mouvement des camions-restaurants, Evie. Ah, c'est de ça qu'on parle.
Je savais.
Avec plus de 600 food trucks à Portland, chaque camion offre de la bouffe hyper spécialisée.
On va manger de la viande fumée chez Pastrami Zombie et moi, je m'en vais faire une salade coréenne chez Kim Jong's Grillin.
On va manger du thai chez Nong's et du mauricien chez Dodo.
Du martien? T'as du martien?
J'ai dit du mauricien, de l'île Maurice.
Ah, OK.
Weirdo.
Hey!
Non, c'est vrai, c'est ce que ça dit,
gars. Ça pas mal, ça pas.
Ils ont un petit accent, non ? Ou je me trompe, Ivigo ?
Alors, eux disent que c'est nous qui avons un accent.
Ouais, ouais. Voilà. Pour les magazines plus sérieux, votre dossier de presse met en avant Complément d'enquête, présenté par Jacques Cardoz. Mais est-ce qu'il y a aussi les grands magazines de France Télévisions, Cache Investigation, Envoyé Spécial ? Alors, ou est-ce qu'il y a juste Complément d'enquête ?
Il y a Complément d'enquête, il y a quelques autres magazines, pas ceux que vous avez mentionnés,
ah
pour
bon,
une raison simple, c'est qu'ils utilisent beaucoup de sujets d'agence pour lesquels nous n'avons pas les droits en dehors de la France. Donc, on ne peut pas les mettre disponible sur une plateforme disponible sur l'ensemble de la planète. Il y a beaucoup de magazines environnementaux, ouais. Des magazines liés à l'art de vivre, hein, comme on vient d'entendre le magazine de
Sel et Diesel.
Voilà, de cuisine québécois.
Et beaucoup d'autres choses sur TV5 Monde. On a TV5 Monde Plus. J'ai l'impression que c'est le sketch des inconnus. Vous restez avec nous, Yves Bigot. On en parle juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yves Bigot, le patron de TV5 Monde, et qui lance le TV5 Monde Plus, plateforme de vidéo à la demande gratuite dans 194 pays à travers le monde. On a parlé du cinéma, on a parlé des magazines. Quelle autre pépite et quel autre genre de pépite avez-vous envie de mettre en avant ?
Des séries, alors notamment des séries québécoises, des séries suisses, Quartier des Banques, Helvetica, des séries belges, des séries françaises, bien entendu. Mais en particulier aussi les séries que TV5 Monde coproduit en Afrique et en exclusivité depuis hier matin 9h, notamment Ouara, une série que nous avons coproduite avec l'AFD, l'Agence française de développement, à Saint-Louis du Sénégal. Et c'est une série qui a été qualifiée dans l'Obs de Borgen à l'africaine. Ça se passe effectivement dans le monde politique et universitaire sénégalais.
Et en France, on la voit que chez vous, évidemment, sur TV5 Monde.
Oui, bien sûr. Et sur TV5 Monde Plus, elle ne sera sur nos antennes linéaires, traditionnelles qu'en 2021.
Il y aura aussi une large place consacrée à la jeunesse, également à la langue française. Il y a des cours de français ?
Oui, bien sûr.
Bien sûr. Non, il y a des gens qui vous découvrent. Hein.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Mais c'est au cœur des missions de TV5 Monde, hein, l'apprentissage et l'enseignement du français. C'est gratuit là aussi. Et sur TV5 Monde Plus, on trouve cours et des exercices de français à partir de vidéos extraites de nos programmes qui sont pédagogisées. Donc c'est extrêmement ludique et c'est visuel.
Alors qui est votre public, par exemple ? Est-ce que les Belges regardent les programmes belges ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, par exemple ? Vous êtes très suivi en Inde. Que regardent les Indiens, par exemple, sur TV5 Monde ?
Alors l'Inde, effectivement, Philippe, est un des 10 pays où nous sommes le plus regardés au monde grâce au sous-titrage en anglais, hein, ouais. Parce qu'il y a peu d'Indiens
qui parlent français.
Francophones. Mais nous avons nous-mêmes été surpris et très heureux de découvrir que les programmes favoris du public indien, c'était les excellentes, il faut dire, séries québécoises.
Non.
Ben si.
Comment ça se fait ?
Et je vous encourage sur TV5 Monde Plus à aller voir Unité 9, ouais. Qui est le Orange is the New Black québécois de Radio-Canada, ou ouais. Les Pays d'en haut qui racontent l'histoire du Québec rural du 19e siècle. Les séries québécoises, elles sont d'un niveau exceptionnel.
J'ai découvert un nouveau mot sur votre dossier de presse, c'est la découvrabilité. D'abord, est-ce que c'est dans le dictionnaire et qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, je ne sais pas si c'est dans le dictionnaire en France, mais ouais. En tous les cas, c'est un concept canadien-français, donc ouais. Québécois. Donc, la découvrabilité, ça consiste à rendre disponibles des programmes et à faire en sorte qu'on soit informé et connaisse leur disponibilité, à la fois ceux qui les recherchent et ceux qui n'en connaissaient pas déjà l'existence.
En gros, c'est un mot savant pour dire on a un algorithme.
Ouais, si vous voulez.
Voilà. Vos partenaires, c'est qui ? En plus des chaînes de télévision, Radio-Canada, Télé-Québec, RTS, les RTBF, Suisses, RTBF.
France Télévisions, Arte France.
Mais il y a aussi des partenaires culturels de prestige.
Le Collège de France, le Musée de l'Homme.
Ouais, pas mal.
Ouais, bien sûr.
Et ces sous-titres en 5 langues.
Français, anglais, arabe, espagnol, allemand.
Et TV5 Monde, c'est sous-titré en 14 langues, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Voilà. Vous voulez que je vous les récite ?
Non. De toute façon, je les avais là. De toute façon,
je savais que ça vous intéresserait
pas. On va pas les regarder. tout à fait autre chose, vous n'êtes pas trop déçu de ne pas être le numéro 2 de France Télé ?
Non, je suis très heureux d'être le numéro 1 de TV5 Monde.
J'explique parce que le CSA a renouvelé le mandat de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions.
Qui est aussi la présidente du conseil d'administration de TV5 Monde.
Et ça se jouait entre elle et Christopher Baldelli. Or, si on en croit la presse, vous faisiez partie du ticket avec Christopher Baldelli.
Alors, il ne faut pas toujours croire ce que dit la presse. Je dois une loyauté à Delphine Ernotte. Par ailleurs, Christopher Baldelli est mon ami. Ouais. Donc, tout le monde est... Et évidemment, on se parle aussi des fois de France Télévisions ou de télévision en général, mais de radio, hein, ouais. Notamment. Et je pense que la presse a... Voilà.
C'était pas vrai.
Outré des choses. Non, c'était pas vrai. Et d'ailleurs, je rajoute que Jean-Paul Philippot, le patron de la RTBF, qui était candidat lui aussi, est aussi mon ami. Ouais. Et il est administrateur de TV5 Monde. Donc vous voyez, moi, de toute façon, je n'avais que des amis et je devais la loyauté à chacun.
Ça va encore plus loin puisque selon un journal, Delphine Ernotte vous aurait même recruté. Donc c'était soi-disant, enfin pile je gagne, face tu perds.
Non mais vous voyez, ça aussi ce sont des spéculations parce que bien entendu je parle à Delphine Ernotte, elle préside mon conseil d'administration. C'est pas parce que je lui parle qu'elle me recrute pour autant.
On a bien compris. Merci beaucoup Yves Bigot, directeur général de la chaîne TV5 Monde. Et je rappelle, vous lancez TV5 Monde Plus, plateforme de vidéos à la demande, gratuite dans 194 pays à travers le monde. Et ça marche même très très bien en France. Profitez-en. Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va recevoir Eva Rock évidemment pour son zapping du lendemain. Bertrand Chameroy pour l'écran de veille. Il a regardé le 13h de TF1. Et puis Fatouma Diawara, la chanteuse, elle sera en concert. Elle sera la tête d'affiche du festival Jazz à la Villette. Et c'est vraiment une personne extraordinaire. Et elle a joué avec Damon Albarn, Fatoumata, pardon, on me dit que je me suis trompé son prénom. Elle a joué avec Damon Albarn, avec Mathieu Chédid dans Ems, 200 000 ventes, c'est extraordinaire. Et puis dans Les Indispensables, musique et une série adaptée d'un livre, déjà adaptée au cinéma. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.